Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Céline Calvez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine et je suis très heureuse de vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste avec Michel Leduc, ici présente, car voilà longtemps que nous voulions vous interroger et vous féliciter pour ce très intéressant rapport d'information qui porte votre nom, rapport coécrit avec Stéphane Viry pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Ce rapport, remis en mai 2018 à l'Assemblée nationale, porte sur un thème qui nous est cher à l'Union rationaliste, les femmes et les sciences. La présidente de l'UR a longtemps été la physicienne Hélène Langevin-Joliot. Et chacune d'entre nous, Michel Leduc et moi-même, luttons dans nos domaines, Michel en physique et moi en philosophie, pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Alors, Céline Calvez, sur ce rapport femmes et sciences que vous avez mené, en retenant avec vos rapporteurs une démarche participative d'audition, de table ronde, de consultation citoyenne, pourquoi avez-vous tiré ce constat alarmant et qui va à l'encontre des idées que l'on pourrait avoir sur la participation des femmes en sciences aujourd'hui, qui est que bien que connaissant une meilleure réussite scolaire en moyenne que les garçons, les femmes occupent une place bien plus réduite dans les sciences.
Et vous soulevez exactement ce qui a provoqué pour nous une certaine urgence. On pourrait se contenter d'être dans une fausse perception qui serait de dire « bah la place des femmes en sciences, ça doit s'améliorer, et puis ça s'améliore, et ce n'est plus un problème ». Or, dans certains domaines scientifiques, c'est même en régression. Donc ce n'est pas seulement une évolution lente, c'est même une menace puisque les femmes ne sont pas dans certains champs scientifiques. Et là où ça soulève un paradoxe, c'est que à l'école, au collège, au lycée, les filles réussissent mieux que les garçons. Pourtant, dans les emplois scientifiques, elles ne sont pas là. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le moment de cassure, de filure qui fait que les femmes ne choisissent pas les sciences pour leur épanouissement professionnel? Et ça, au départ, vous savez, dans cette mission qui a été confiée par la délégation aux droits des femmes, nous devions nous contenter de regarder ce qui se passait dans l'enseignement supérieur et dans les carrières scientifiques. Or, avec Stéphane Viry, mon collègue, tout de suite, on s'est dit, nous, on est passionnés par cette question, mais il va falloir nous autoriser à remonter un petit peu avant. Et pour nous, il était nécessaire de pouvoir le faire. Et dès la première audition, vous savez, on a parlé des jouets. Les jouets qui sont genrés, les jouets qui sont disponibles, une boîte de chimie c'est disponible avec un petit garçon dessus, mais vous n'en trouverez que très rarement avec une petite fille dessus. Alors on peut parler de la stratégie marketing des jouets dans le genre ou dans le non-genre, mais en tout cas ça interpelle. Et tout notre propos, ça a été de montrer que cette évolution post-scolaire des filles avait sans doute des racines dans l'école, dans la société, avant.
Oui, je voudrais que vous puissiez creuser un petit peu cette question. À l'évidence, les filles dès le lycée manquent de confiance en elles-mêmes, peut-être même avant, quand il est question de leur capacité en calcul et puis au lycée en mathématiques. À niveau égal, les garçons se voient plus doués que les filles quand ils se jugent très bons en maths. 9 garçons sur 10 vont vers la terminale S, tandis que pour les filles, c'est seulement 6 sur 10. Et les filières littéraires regroupent beaucoup plus de filles que de garçons. Il y a donc un problème d'identité chez les filles, telles qu'elles se voient, telles qu'elles se pensent et telles qu'elles pensent que la société les voit. Avez-vous démêlé les racines du conditionnement culturel qui oriente les futurs choix de carrière pour les filles? Par la famille, les professeurs, vous l'avez noté?
Mais les professeurs, vous soulevez par exemple la question des mathématiques à l'école. Les mathématiques, vous entendez souvent des préjugés qui font que les filles n'auraient pas la bosse des maths. On ne présente pas des jeux mathématiques aux petites filles. On le présente aux garçons, les cubes, les tangrammes, ce serait réservé aux petits garçons. Et en fait, c'est dans la formation des professeurs même, et même leur profil, leur recrutement, qu'il faut pouvoir mettre en place des femmes et des hommes, mais qui sont capables de proposer ces jeux mathématiques à l'ensemble des petits-enfants. Le jeu, c'est une manière de découvrir les sciences, c'est une manière d'y prendre goût. Donc il faut que l'on puisse s'assurer que l'enseignement scientifique soit revalorisé au sein des formations des professeurs. Et ça veut dire que même au sein de ce qu'on appelle les enseignements scientifiques, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire avec la réforme du bac, on puisse considérer que l'enseignement scientifique, ce ne sont pas que les mathématiques, c'est un raisonnement qui fait que le citoyen, d'ailleurs, connaît mieux son environnement. Donc, c'est une question de formation à l'esprit scientifique.
Vous décrivez dans votre rapport l'influence des stéréotypes dont vous venez de parler avec les jouets qui influencent toujours les mentalités concernant le rôle des femmes dans la société. Comment pensez-vous qu'ils peuvent être combattus? Faut-il mieux former les enseignants? C'est un peu ce que vous venez de dire. Et que vous avez parlé des jouets. Que dire des livres scolaires? Voyez-vous des remèdes pour combattre les idées reçues? Par exemple, vous mentionnez dans votre rapport la création d'un observatoire des stéréotypes de genre pour les manières scolaires. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de possible?
Je pense que c'est possible. C'est d'ailleurs une volonté qui est partagée par Jean-Michel Blanquer. Il a mis en place des référents égalité dans les établissements. Il y a toute une réflexion sur la formation des professeurs, leur formation initiale. Aujourd'hui, dans les ESPE, les établissements, vous avez des sensibilisations à l'égalité qui sont plus ou moins faites. Vous avez des établissements où c'est fait et d'autres pas du tout. Donc on a un certain manque d'uniformité, et ça, avec la transformation des ESPE en instituts nationaux de formation, l'idée c'est de faire que ça devienne incontournable. C'est possible dans les manuels, je pense, de pouvoir le faire aussi. Les manuels, on peut les scruter, on peut, et ça a déjà été fait dans de la littérature jeunesse, de dire que ça, ce n'est plus possible de voir ça. Et c'est un peu à l'appel des citoyens, des parents aussi, d'être vigilants. Ils ont leur propre rôle à dire, ils ont leur rôle de pression aussi, à pouvoir dire ça, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est dans toutes les strates de ce qui se fait autour du scolaire que ça peut être fait. Mais dans les familles aussi. Un des freins à l'orientation des filles dans les filières scientifiques, ce sont souvent leurs familles qui disent « mais ça va être compliqué, tu vas te retrouver dans une école de garçons, ça va être compliqué, n'y va pas ». Et ça, c'est aux filles de se dire « je peux le faire. Il va falloir discuter avec les familles.
Nous avions fait à l'antenne de l'Union Rationaliste une émission sur les manuels de SVT et ce grand problème qu'il y avait eu dans l'enseignement du genre, en particulier en terminale S. Les familles ne sont pas toujours de solides appuis.
Oui, vous avez raison de le souligner. On a des conceptions dans les familles qui pourraient même aller à l'encontre. Voilà. Et il faut pouvoir montrer que les sciences sont une voie d'épanouissement. On n'est pas dans la promesse d'études dures, de carrières dures. On est aussi sur des épanouissements possibles. Vous avez des jeunes scientifiques qui se sont dirigés vers l'astronomie. Ça paraît impossible de toucher les étoiles. Et pourtant, maintenant, elles sont capables d'être des rôles modèles, de pouvoir dire « mais c'est possible, mais il a fallu combattre certains préjugés des familles ». Mais les conseillers d'orientation, les professeurs qui sont là pour accompagner, peuvent contrebalancer. S'il y a du côté des familles des craintes, peuvent encourager. Et pour ça, il va falloir qu'ils soient bien formés. On en revient toujours à cette formation, sensibilisation, éviter les biais de genre et encourager dans les jeunes pousses qui auraient des goûts pour les sciences, le fait de pouvoir poursuivre cette recherche d'études et de pouvoir s'armer ensuite pour conduire sa carrière. Parce qu'on peut être très bonne en sciences, mais il faut aussi être très bonne dans la gestion de sa carrière.
Bien sûr.
Oui, justement, sur les carrières qu'on fait ensuite, je voulais vous poser une question, parce que nous ne sommes plus à l'époque de Marie Curie, où les préjugés de ses collègues masculins l'avaient exclu de l'Académie des sciences, malgré son récent prix Nobel de chimie et de physique. Pourtant, les femmes qui accèdent aujourd'hui aux carrières scientifiques, en recherche fondamentale comme dans les sciences de l'ingénieur, dans le secteur public comme dans le privé, sont proportionnellement beaucoup moins nombreuses que les hommes à accéder à des postes de direction. C'est le fameux plafond de verre. Comment l'expliquez-vous? Est-ce le machisme ambiant, l'autocensure, le poids des responsabilités familiales qui arrivent à un moment critique de la carrière? Quels conseils donneriez-vous aux femmes?
Alors, je pense que les conseils, on peut tout avoir. Je pense qu'on peut tout avoir. Il faut juste pouvoir mettre en place la stratégie du moment. Quand vous parlez du poids familial, effectivement, les moments de promotion dans les carrières scientifiques correspondent au moment où la construction d'une cellule familiale se fait. Donc, on doit faciliter les congés de paternité, on doit faciliter la vie du conjoint scientifique qu'on recrute, de pouvoir se dire que ce n'est pas un conjoint ou une conjointe qui doit sacrifier par rapport à la mutation, au recrutement à l'étranger, imaginons, d'un scientifique. Et puis, au-delà de ça, vous parlez du machisme. Effectivement, il faut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables et qui existent encore dans certains labos. Et il faut pouvoir bien renseigner sur, c'est acceptable ou pas acceptable. Mais je pense, et j'en reviens encore, sur la manière de gérer sa carrière, gérer le temps de sa carrière. L'autocensure... On arrive à ne plus tomber dedans à partir du moment où on entrevoit comment entreprendre sa carrière. Il faut autoriser les jeunes filles dans les sciences mais aussi ailleurs, mais à pouvoir établir une stratégie de carrière. Ce n'est pas un mauvais mot de parler de stratégie de carrière quand on a de l'ambition. Ce n'est pas un mauvais mot de pouvoir s'entourer des conseils de ses pairs, que ce soit masculin ou féminin d'ailleurs, dans la manière de conduire son projet.
Oui, alors parmi les 23 recommandations que suggère votre rapport pour pousser davantage les filles vers les sciences, quelles sont celles qui vous paraissent les plus importantes? Toutes sont pertinentes, certaines celles ne se réaliseront qu'à long terme selon vous. Quelles sont celles qui peuvent être rapidement suivies d'effet, avoir un impact visible? Vous qui êtes proche des politiques, comment menez-vous le prolongement de votre rapport?
Sa mise en œuvre,
voilà. Comment pensez-vous que le gouvernement puisse lancer, par exemple, une campagne nationale d'information sur les métiers, ou que le Conseil des programmes puisse être armé d'experts sur l'égalité femmes-hommes, etc. Il y a plusieurs recommandations qui semblent réalisables avec la volonté politique.
Il y a la volonté politique et il y a notre volonté de ne pas laisser ce rapport sur une étagère. Et donc notre volonté, déjà, c'est de pouvoir préparer sereinement un bilan au bout d'un an. Et pour le préparer, nous nous sommes employés avec Stéphane Viry à pouvoir interpeller les membres du gouvernement qui sont concernés. Alors ça va de Jean-Michel Blanquer à Marlène Schiappa, à Muriel Pénicaud ou Frédéric Vidal, de pouvoir reprendre chacune de nos recommandations et d'en faire une question écrite. Vous savez, les questions écrites, c'est une manière pour le parlementaire d'interpeller le gouvernement sur tel point pour savoir où en est tel projet. Donc, nous l'avons fait. Sur les mesures qui me tiennent le plus à cœur, les 23, je vous dirais. Par contre, effectivement, il y en a qui sont peut-être plus facilement à mettre en œuvre et qui ont peut-être un impact plus rapide. J'ai un attachement aussi particulier à ce que l'image, l'audiovisuel, le cinéma peut impacter sur notre culture. Quand vous avez eu des séries comme Urgence ou des émissions comme Top Chef, ça a eu un retentissement terrible sur la manière d'embrasser des carrières. À quand une série qui pourrait toucher les jeunes, voire très jeunes, qui pourrait avoir un modèle dans ces héros qui embrassent des carrières scientifiques? Et pas forcément dans le médical. On peut très bien se dire que la carrière de programmatrice informatique peut être un vrai nœud à histoire et qui pourrait passionner les plus jeunes. Donc je pense que rendre visibles les rôles modèles qui existent déjà dans ces métiers, c'est déjà possible et ça va faire son effet aujourd'hui dans la tête des jeunes pour qu'elles puissent demain embrasser ces carrières-là de manière sereine et super motivée.
Mais ça, ce n'est pas la tâche du gouvernement, c'est la tâche des médias, des séries et dans l'aspect plus spécifiquement politique et dans vos 23 recommandations. Oui. Alors, quelles seraient en dehors des médias? Oui. Ce qui n'est pas exactement le propos des politiques.
Alors, je parlais de séries, mais on peut faire aussi une campagne sur la mixité dans les métiers, la représentation. Vous l'avez dans les métiers scientifiques, mais vous l'avez aussi, par exemple, dans les métiers de force de l'ordre. Nous, au sein de la délégation, on veut aussi pouvoir promouvoir les métiers de police, gendarmerie, pompiers, qui sont aussi ouverts aux femmes, et il faut pouvoir le faire. Et ça peut être une campagne du gouvernement qui peut pouvoir mettre en place des différentes représentations. Mais il y a aussi déjà des choses qui sont en train d'être faites. Quand on parle de l'égalité professionnelle et l'égalité au sein des laboratoires, au sein des entreprises qui font appel à des scientifiques, eh bien, vous le savez, depuis la loi pour l'avenir, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il y a tout un volet sur l'égalité salariale où l'on va forcer les entités à remonter les chiffres et pour qu'on puisse vraiment arriver à une égalité salariale. Si ces chiffres ne sont pas bons, il y a sanction.
Discrimination positive.
En tout cas, de dire qu'il faut arriver à une égalité. Et si cette égalité n'est pas là, l'entreprise peut être sanctionnée. Donc ça peut être valable aussi pour les métiers scientifiques. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en place et qu'on va surveiller. L'idée, c'est qu'on donne 3 ans aux entités pour se mettre en place. Il faut aussi, et ça je tiens à le dire, que les entités publiques soit dans l'exemple. Nous, on a eu du mal à avoir des chiffres des laboratoires publics. Et quand on les avait, parfois, ils n'étaient pas forcément exemplaires. Donc, les entités publiques se doivent aussi d'être exemplaires sur l'égalité dans les fonctions, dans les salaires.
Je voudrais terminer en citant Françoise Héritier, qui a tant fait pour la compréhension de la construction des rôles des femmes et des hommes dans l'histoire. Elle a déclaré en 2017, juste avant de nous quitter, « L'égalité des sexes doit devenir une question politique. » Vous-même, dans votre rapport, avez écrit « La parité dans les sciences est un enjeu pour le développement et pour la démocratie ». En tant que femme politique, pouvez-vous commenter cette affirmation à laquelle adhèrent tous les rationalistes qui ont foi dans les progrès attendus pour la société avec la science ?
La science, et on le voit, par exemple, avec la diffusion des fake news, des fausses informations. Le fait d'avoir un esprit scientifique nous amène à débloquer ce qui est de la fausse information. Donc, les sciences sont capitales pour le politique. Et la question de la place des femmes dans les sciences l'est, ne serait-ce que si on prend la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous le savez, elle est au cœur de tout. Malheureusement, c'est exactement un des aspects de domaine scientifique où les femmes, le nombre des femmes sont en régression. Mmh. Les femmes étaient plus nombreuses dans les années 80 dans l'informatique qu'aujourd'hui. Or, si vous avez un manque de femmes dans l'intelligence artificielle, vous allez sans doute perpétrer, voire amplifier les biais de genre. Donc il faut que les femmes soient dans l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, c'est peut-être une aide à la démocratie participative de demain. Donc il faut que les femmes y soient.
Céline Calvez, c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Michel Leduc, Céline Calvez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de l'Union Rationaliste ainsi que nos différentes publications. Je remercie Marie Lepeintre et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.